VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Gévillon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Commémoration au Rwanda le 7 avril prochain du 25e anniversaire du génocide de 1994. Comme chaque année, le président rwandais Paul Kagame va ouvrir ce jour-là une période de deuil national de 100 jours en allumant une flamme du souvenir au mémorial de Gisozi à Kigali avant d'assister à une cérémonie au stade Amahoro. Le Rwanda comptait sur la présence à Kigali le 7 avril d'Emmanuel Macron, mais le président français a décliné l'invitation et demandé au député Hervé Berville, orphelin d'origine rwandaise, adopté par une famille française en 1994, de le représenter. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dont l'organisation avait été incapable en 1994 d'empêcher les massacres, malgré la présence de 2500 hommes sur place, n'ira pas non plus à Kigali. Le président congolais a lui levé la mesure suspendant l'installation du nouveau Sénat de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi est satisfait par le rapport préliminaire d'enquête sur les allégations de corruption des grands électeurs selon un communiqué de la présidence. Compte rendu à Kinshasa, Thierry Kabundi de notre station partenaire Top Congo FM.
Le contenu du rapport du procureur général près la Cour de cassation n'a pas été dévoilé. Le communiqué de la présidence de la République réaffirme simplement la détermination de Félix Tshisekedi à combattre la corruption et considère que plus rien ne s'oppose à l'installation du Sénat. Avant la levée de cette mesure, le président de la République a eu une réunion de concertation avec les procureurs généraux près les cours d'appel à travers toute la République sur les allégations de corruption relevées autour de l'élection des sénateurs. Il a, selon le communiqué lu à la télévision nationale, félicité les magistrats pour le travail abattu en même temps qu'il les encourage à les faire aboutir. Pour rappel, le 18 mars dernier, Félix Tshisekedi avait, à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle, décidé de suspendre l'installation des sénateurs élus et de reporter l'élection des gouverneurs. Des décisions prises notamment après la débâcle de son parti au sénatorial et une écrasante victoire du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Malgré une vingtaine de députés provinciaux dans le pays, en effet, l'UDPS Tshisekedi n'avait remporté qu'un seul siège au Sénat sur les 100 à pourvoir. Un score qui avait provoqué un tollé, poussant les militants de ce parti à manifester dans les rues, causant la mort d'un policier et plusieurs dégâts matériels. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé aujourd'hui à voter une résolution prolongeant le mandat des casques bleus en République démocratique du Congo jusqu'au 20 décembre avec des effectifs inchangés selon le projet de texte diffusé jeudi. Si le Conseil de sécurité entérine cette résolution, comme c'est probable, il ne suivrait donc pas les recommandations d'un récent rapport d'Antonio Guterres proposant une réduction d'environ 2000 membres de la MONUSCO. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des groupes djihadistes qui sévissent dans plusieurs pays de la zone CFA ont été au centre des préoccupations à la réunion des ministres des Finances des États concernés. C'était hier jeudi à Niamey. Le point avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Dans le communiqué qui a sanctionné la rencontre, les ministres des Finances des pays de la zone franc ont réaffirmé la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Plusieurs pays de cette zone sont en effet confrontés au terrorisme et la France est plus que jamais disposée à les aider pour y faire face, a indiqué son ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire.
Le terrorisme est en train de l'Europe. Donc nous voulons combattre tous ensemble le terrorisme avec la plus grande fermeté. Et le Niger va avoir à la sécurité, comme tous les États membres de France. Chacun voit bien la déstabilisation que cela peut provoquer. La France se tient aux côtés du Niger pour combattre le terrorisme. Nous sommes engagés dans cette lutte contre le terrorisme. Il ne peut pas y avoir de développement économique sans sécurité. Et la sécurité est une priorité absolue. Combattre Boko Haram, comme nous avons combattu Daesh, est pour la France une priorité absolue. Et le Niger sait qu'il peut compter, comme les autres États qui sont touchés par ce phénomène, sur le soutien matériel, financier, militaire de la France.
Le ministre français a tout de même salué le succès des pays de la zone franc sur le plan économique. La zone UEMOA, par exemple, a renoué, malgré les problèmes de sécurité dans certains pays de son espace, avec la croissance. Mamadou Diop, ministre nigérien de l'économie et des finances.
Si je prends la zone UEMOA, depuis 7 ans, nous avons une croissance moyenne de plus de 6%.
c'est le franc CFA pourtant que nous utilisons. Si vous prenez des pays qui n'ont pas le franc CFA comme monnaie et qui ont des monnaies nationales, ils n'ont pas les mêmes performances. Est-ce que ce n'est pas ça le plus important? Voilà ce que je réponds à chaque fois. L'important pour moi, c'est comment on conduit la marche du développement dans nos pays.
Interrogé sur ce débat autour du franc CFA et le projet d'une monnaie unique dans l'espace de la CEDEAO, le ministre français de l'économie a répondu que c'est aux États africains de décider. La France accueille de façon constructive toute initiative complémentaire dans le domaine monétaire. Abdelazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Les Algériens s'apprêtent à dire à l'armée ce vendredi, jour hebdomadaire de manifestation, si sa proposition d'écarter le président Abdelaziz Bouteflika suffit à calmer la contestation contre le régime. Pour ce sixième vendredi, jour de manifestation de masse depuis le 22 février, les Algériens ont commencé à se rassembler dans la capitale après que plusieurs fidèles de M. Bouteflika, dont le chef d'état-major de l'armée, l'ont appelé cette semaine à partir. Plusieurs heures avant le coup d'envoi prévu des rassemblements, quelques centaines de manifestants se sont rassemblés devant la grande poste et puissante de la contestation au centre de la capitale algérienne, chantant « Y en a marre de ce pouvoir, y en a marre ». Médecins sans frontières a dénoncé les conditions de détention extrême et des taux alarmants de malnutrition parmi les réfugiés et migrants dans un centre de détention de Tripoli en Libye. Eric Manirakiza.
MSF affirme que les détenus ne reçoivent qu'un repas tous les deux ou trois jours et que les nouveaux arrivants peuvent attendre jusqu'à quatre jours avant de recevoir de la nourriture. L'ONG indique que près du quart des personnes incarcérées dans le centre de Saba souffrent de malnutrition. Un tiers d'enfants et d'adolescents parmi les détenus ont 50% plus de risque de souffrir de malnutrition grave. La situation est extrêmement préoccupante et la nourriture est systématiquement identifiée comme la principale cause d'anxiété dans ce centre, a affirmé Keith Keus, conseiller santé de MSF pour la Libye. L'ONG exhorte les autorités libyennes et la communauté internationale à agir en urgence pour mettre fin aux conditions inhumaines et dangereuses dans les centres de détention libyens.
Nos infos sur voaafrique.com.
À Washington, il est 7h07. Le président américain Donald Trump va accueillir son homologue sud-coréen Moon Jae-in le mois prochain, quelques semaines après l'échec du deuxième sommet entre Washington et Pyongyang. M. Moon est depuis longtemps partisan du dialogue avec une Corée du Nord armée de la bombe nucléaire et puni pour cela par des multiples sanctions économiques. Il est la cheville ouvrière des discussions entre le président américain et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. M. Moon se rendra le 10 avril à Washington pour une visite de deux jours, a déclaré à l'AFP ce vendredi un porte-parole de la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne. Le président du Parlement vénézuélien Juan Guaido, également chef de file de l'opposition, a été révoqué hier de son poste et déclaré inéligible durant 15 ans pour corruption présumée, ont annoncé les autorités vénézuéliennes. Les précisions avec Irénée Hermanoumbou.
L'annonce a été faite par le contrôleur général de la République, Elvis Amoroso, à la télévision d'État. Chargé de veiller à la transparence de l'administration au Venezuela, Amoroso a décidé d'interdire l'exercice de toute fonction élective au citoyen Juan Guaido pour la durée maximum prévue par la loi. Cette durée est de 15 ans, a-t-il rappelé, indiquant que Juan Guaido ne justifie pas dans ses déclarations de patrimoine certaines dépenses réalisées au Venezuela et à l'étranger avec des fonds provenant d'autres pays. Il a réalisé plus de 91 voyages hors du territoire pour un coût supérieur à 310 millions de bolivars, soit environ 94 000 dollars, sans justifier l'origine de ces fonds, a dénoncé le contrôleur. Reconnu comme président intérimaire du Venezuela par les États-Unis et leurs alliés, Juan Guaido a rejeté la mesure le limogeant de son poste de président du Parlement. Amoroso n'est pas le contrôleur général et seul le Congrès légitime peut en désigner un, a fait savoir Guaido.
Chine et États-Unis sont entrés aujourd'hui à Pékin dans le vif du sujet concernant leurs négociations commerciales dans un contexte d'incertitude quant à la possibilité de parvenir à sceller un accord entre les deux pays. Pékin et Washington tardent à mettre un terme à leur guerre commerciale enclenchée l'année dernière. Le conflit douanier s'est matérialisé par des droits de douane punitifs réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.